lâcheurdetemps.com.
Nous rappelons à notre aimable clientèle que lâcheur prend un S, sans quoi vous ne trouverez rien. Merci de votre compréhension. Au revoir.
Bah voilà, c'était notre jingle. Comme nous l'avait demandé un certain visiteur qui a dit que ça serait mieux avec des jingles, bah voilà, on a mis des jingles. J'espère que tout le monde sera content. Donc je vous souhaite la bienvenue à tous les humains qui souhaitent nous écouter. Ceci est la première émission des Lâcheurs de Temps. Fausse première, je vous l'accorde, vu qu'on en a déjà fait une avant, donc moi-même tumulte avec mon cher camarade Lamia qui n'est pas là aujourd'hui. Donc vraie émission parce que là on a un vrai invité qui dit des vraies choses, parce que dorénavant c'est probable qu'on donne notre avis, c'est même plus que sûr, parce que après tout l'objectif des lâcheurs de temps est ça. Mais là, on va inviter d'autres gens pour qu'ils donnent leur avis et qu'ils parlent de choses super intéressantes pour deux raisons. Ça nous fait moins de boulot et en plus, s'ils disent des conneries, c'est pas de notre faute. Donc voilà, on entame cette saison puisque c'est super à la mode de dire saison de nos jours depuis que Hollywood a réinventé les séries. Donc on entame cette saison, comme je disais, par une interview avec notre cher ami Aizik, qui au-delà d'être un blogueur fou et d'être un membre éminent de Dogmazik, est actuellement chargé des conférences du tout premier festival de musique, de culture et de tout ce qu'on veut libre sur la région lyonnaise. Donc ce festival s'appelle Artichaut, vous trouverez tous les liens sur Dogmazik et sur le site Les Lâcheurs de Temps sans l'ombre d'un problème. Et ça se déroule la semaine prochaine, c'est-à-dire le 25. Mais si je dis la semaine prochaine et qu'on est en avril 2009, ça ne marchera plus. Attention les enfants, soyez vigilants. Donc voilà, donc on va parler un peu de ce festival, comment ça se passe. Mais rassurez-vous, même si vous ne pouvez pas y aller, même s'il est déjà trop tard, cette émission vaut le coup parce qu'on parle de plein de choses qui vont bien au-delà de l'événementiel. Et ce monsieur Aizik est quand même plutôt intéressant, je vous laisserai en juger. Ça se passe dans un café, il y a du bruit, on entend la machine à café qui fait pchit. Et mon enregistreur était pourri parce que j'ai pas pris la peine d'aller chercher mon vrai enregistreur, mais ça ne se reproduira plus, je vous le promets. Au-delà de ça, la semaine prochaine, vous aurez droit à la chronique du festival avec plein d'interviews de plein de gens, de public, de plein de trucs. Ça va être super cool. Enfin bref, non mais je vous dis, hein, ça va être bien. Faut revenir sur cette radio parce que on est bon, merde. Bon, je vous laisse avec Aizik. Alors, mon cher Aizik.
Bonjour.
Salut. Alors, déjà, raconte-nous en quelques mots pour la xème fois que tu as été interviewé de partout. Artichaut, ouais. Ce que tu fais dans Artichaut.
Alors, qu'est-ce que je fais dans Artichaut? Je suis président de l'asso. Mmh. Et je suis responsable des conférences sur le festival. Alors, c'est moi qui vais organiser les conférences, qui a initié un petit peu tous les sujets des conférences et qui a invité un peu tout le monde sur les conférences. Donc voilà. C'est un petit peu par rapport à tout ce que je veux leur faire dire sur les conférences. C'est intéressant de voir. Trois conférences. Une le mardi, enfin deux le mardi, dont le thème principal de ces deux, c'est Internet et les auteurs, un danger, avec un gros point d'interrogation, savoir est-ce que véritablement Internet c'est un danger pour les auteurs. Donc ça c'est le thème de la journée complète. Et donc après, donc le premier thème de la conférence dans cette journée s'appelle, si ma mémoire est très bonne, mais elle commence à être défaillante en ces temps d'affichage sauvage d'affiches artichauts. Le copyleft et le copyright. Donc l'idée c'est de faire intervenir des personnes qui sont tout simplement à la SACEM. Je pense notamment au label manager de Jaring FX, David Morel, autrement connu sous le nom de Mr. Mo. Qui lui va intervenir un petit peu pour savoir qu'est-ce que lui peut faire par rapport à ça, parce qu'il a quand même un discours, il crache souvent beaucoup sur SSM parce qu'il les aime pas, ces connards, ou ces fachos, fin de citation. Oui, il parle d'extrémistes en parlant de l'SSM. Voilà, il y aura monsieur Sylvain Dumonteil qui est le label manager de Aldent Records. Donc notamment, et c'est aussi le gars aussi qui est derrière l'artiste Tsunami Wazari. Donc du coup c'est un gars qui fait de la musique libre, dont bassiste en fait c'est Rico de Dub Magic. Donc c'est un gars qui a envie de faire de la musique libre, puis de la diffuser. Notamment il est son dernier album, The Fat of the Land, Fat of the Prophet, ou je sais plus quoi.
Fat of the Land, c'est Prodigy.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est plus du dub, donc je pense que c'est plutôt le Fat of the Prophet. Donc voilà, son dernier album en fait est distribué par une société indépendante, un distributeur indépendant qui s'appelle La Baleine, qui distribue d'autres CD d'artistes plus reconnus. Donc voilà, son CD est disponible en Fnac, en Virgin. Et c'est intéressant de voir ça, quoi, de voir comment les artistes libres peuvent être distribués physiquement par des structures, je vais dire classiques, et qui permettent de sortir un petit peu de l'anonymat d'Internet. Même si on pense que parfois Internet ça permet de se faire connaître, ça permet de se faire connaître auprès des internautes, pas forcément auprès de la majorité des gens. Voilà. Internet c'est que 60% de la population aujourd'hui, alors que avant le marché de la musique était beaucoup plus important. Voilà, sur cette conférence là il y aura aussi monsieur Dominique Magnès qui est responsable du service numérique à Lyon 2, qui était avant un professeur à l'ENSIB, à l'école des bibliothécaires. En fait c'est un gars qui a une réflexion très intéressante sur le droit d'auteur, appliqué notamment aux nouvelles technologies. C'est un gars qui a publié en Creative Commons et qui veut avoir un esprit assez critique sur l'utilisation de ces licences. L'utilisation par exemple des étudiants que vont avoir Wikipédia lors d'un exposé, ils vont recopier des paragraphes entiers d'une encyclopédie et ils vont pas du tout se soucier quelle est la source de l'information. Du coup il a cet avis là où il dit il y a des choses qui sont très positives et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup moins. Il est très critique aussi notamment par rapport à Google et par rapport à l'emprise de Google et de la société privée sur d'une société privée sur la vie privée des gens. Donc voilà, il a un point de vue qui est super intéressant, qui n'est pas axé complètement sur la musique, plus axé sur le droit d'auteur au général, et qui me semblait vraiment intéressant pour un festival tel que Artichaut qui est plus artistique. Voilà. Donc ça c'est la première conférence, ce ne sera pas moi qui sera animateur, ce sera Stéphane Miex de Jaring FX. Les conférences ont été faites en collaboration avec Jaring FX. Voilà. Tu veux que j'énumère encore toutes les autres conférences ou
comme tu veux.
Parce que je suis parti sur les conférences là, ouais. Du coup.
Après j'aurais une petite question sur les conférences. C'est l'optique des invités, c'était plutôt d'avoir des débats contradictoires ou de présenter le point de vue du livre. Y aura-t-il des gens de l'SSM par exemple
Alors les gens de l'SSM, j'ai essayé de les contacter, j'ai eu réponse, j'ai pas eu de réponse. Et en ayant fait plusieurs relances différentes, j'ai contacté les gars de la SACD qui m'ont dit on serait super ok, mais le souci c'est que notre AG national est dans ces eaux-là. Du coup, il n'y a absolument personne de disponible à ce moment-là, mais ils étaient très intéressés de venir participer. Quoi. Savoir pour la petite histoire que la SACD c'est la seule sociétaire d'auteurs en France qui tolère les Creative Commons pour ses sociétaires. La SACD permet à un auteur de film de dire j'ai envie de publier mon note sur Creative Commons, je peux le faire. C'est la seule chose qu'ils le tolèrent, dans le sens où ils disent s'il y a un souci, c'est à l'auteur de régler le souci. Voilà. Ce qui n'est pas une acceptation à 100% du principe des Creative Commons, mais c'est quand même une avancée qui est intéressante vis-à-vis de la SACM qui, par exemple, elle considère les CC comme étant un danger et que c'est totalement inacceptable pour la SACM, le système des Creative Commons. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas de débat contradictoire particulièrement. Je pense que chacun aura des positions qui varieront sur des choses importantes. Je pense qu'un gars, par exemple, comme David Morel de Jaring FX, va plus ou moins essayer de tâter un petit peu le terrain, savoir un petit peu où ça en est, le livre, et essayer de trouver un petit peu de réponse par rapport à lui, son activité. que quand il me dit une production d'un album tel que Ezekiel, c'est 25 000 euros. Il n'y a pas beaucoup d'artistes libres, voire même pas du tout, qui ont ce budget-là de production sur un album. Quoi. Les labels de Another Record, par exemple, ou de... Le label tel que Another Record, si tu veux, pour les productions de ces albums, c'est entre 1500 et 1000 euros. Quoi. Donc, c'est pas du tout les mêmes échelles encore. Voilà. Donc, l'idée, c'est effectivement, les conférences sont là pour... Il y a deux types de conférences. Il y a les conférences du mardi qui peuvent être très techniques sur le droit d'auteur, distribution de musique et compagnie. Et la conférence du mercredi, elle est plus grand public. Elle est plus de dire, on va inviter des gens qui vont parler d'automasique, on va inviter des gens qui vont parler de dogmasique pour dire un peu ce que c'est au public. On va inviter des gens pour dire, dans une bibliothèque, dans une médiathèque, qu'est-ce que ça peut apporter une bande automasique, qu'est-ce que ça peut apporter la musique libre, une pratique de ça. On a aussi invité aussi un co-directeur d'un ce qu'on peut appeler un centre social, mais c'est une maison numérique, un Grigny, qui est dans un quartier difficile. Donc ça permet aussi de voir un petit peu dans ces conditions-là comment voir un petit peu le libre et qu'est-ce que ça apporte là, dans ces projets-là sociaux, culturels, importants. Et puis on a aussi une politique, l'adjointe au premier à la culture, qui va aussi parler un petit peu de sa vision un petit peu de la culture et comment elle peut voir les différents passages qui peuvent être faits, quoi, avec les différents publics et tout. Quoi. Donc c'est intéressant de voir ces choses-là. C'est une première édition d'un festival, donc il ne faut pas non plus viser la barre trop, je dirais, par rapport aux conférences. L'objectif premier des conférences, c'est de dire, voilà, on existe, et regardez comme c'est intéressant, et regardez comme c'est faisable, et comme c'est réalisable, et que c'est réaliste, et que, j'allais dire même, c'est même carrément pragmatique par rapport à la situation des droits d'auteur et des artistes aujourd'hui. Quoi. Donc, ce premier objectif-là, si ce premier objectif-là, il est atteint, bah, tant mieux, quoi.
Ok. Donc, alors, le monde du livre est quand même un petit monde très sympathique, mais un tout petit peu fermé pour l'instant. Ouais, enfin...
Ouais, ça dépend qui, où...
Voilà, enfin, disons les choses autrement. Est-ce que vous avez fait des efforts de pédagogie ou de communication pour essayer d'attirer des gens qui... ne savent pas du tout ce que veulent dire CC, à qui ça n'intéresserait pas.
C'est un petit peu, enfin, peut-être que je vais redire peut-être un peu ce que je vais dire par rapport à la conf du mercredi, parce que c'est la première approche. Il y a ça, et puis aussi le fait aussi que on ne va pas se limiter notamment à une plateforme de téléchargement aussi, on ne va pas se limiter à Dogmasic. On va se dire, si on a des artistes qui ne publient pas en CC, ou qui publient même carrément pas en Dogmasic et qui ne sont pas à la SACEM, on se donne pas du tout, on se donne aucune limite par rapport à ça pour les inviter sur le festival et pour les faire jouer. Quoi. Après derrière, par rapport aux artistes en eux-mêmes, faire de l'information sur les artistes, il y a une soirée, c'est la soirée de scène ouverte au cabaret le 22, où on invitait notamment des artistes du collectif du musicien lyonnais. Qui est un collectif d'artistes sur Lyon qui regroupe quand même une quarantaine de groupes de gens qui soit tournent pas beaucoup mais qui sont la plupart du temps à la SACEM et qui savent pas trop faire comment autrement et qui se posent des questions et l'idée c'est effectivement aussi de remettre un petit peu le pied à l'étrier ces gens là je peux aussi parler notamment aussi de la constitution de l'association du festival où c'est au départ Musique Libre Lyon qui a changé de nom, qui est devenu Artichaut. Et en fait, on a rencontré pas mal de gens lors des journées qu'on a fait, les soirées qu'on a fait sur les droits d'auteur qu'on a fait à la MJC du Vieux-Lyon, qui ont rassemblé entre 30 et 40 personnes, voire parfois 20. Mais voilà, on a fait trois soirées d'information sur les droits d'auteur, qui étaient intéressantes pour les intervenants. On a eu des gens qui venaient voir un petit peu, qui essayaient un peu de connaître, et puis il y a des gens qui ne savaient pas du tout ce que c'était. Et du coup, on a pu connaître notamment des gens qui voulaient faire un événement, mais qui ne savaient pas trop comment s'y prendre avec la SACEM et compagnie, qui n'avaient pas forcément envie de se prendre la tête avec la SACEM. Et du coup, quand tu parles effectivement de dire aux gens qu'est-ce que c'est que les CC et tout, c'est une certaine manière de dire, on vous donne les outils, puis maintenant c'est à vous de faire. C'est un petit peu comme le principe Confucius qui dit... Donne à manger à un homme, tu le nourriras pendant un jour, apprends-lui à chasser et à pêcher, tu le nourriras pour toujours. Voilà, c'est un peu cet esprit-là qui transparaît, c'est de dire les CC c'est qu'un moyen, et c'est un moyen d'arriver à quelque chose de philosophiquement et politiquement qui nous semble intéressant et positif. On parlait vous de ce moyen.
Alors, bon, Artichaut, le festival, c'est aussi des concerts. Mmh. Donc, alors, en ce qui concerne les supports, la diffusion de la musique, les Creative Commons, on voit ce que c'est. Bon, ça permet de distribuer gratuitement, enfin librement, attention, la musique, il y a tous les supports qu'on veut. Mais dans la vraie vie, dans les lives, dans les concerts, qu'est-ce que ça apporte de plus, la musique en Creative Commons?
Alors, ça apporte deux choses. Ça apporte la possibilité pour les gens de venir avec leur baladeur MP3, clé USB et compagnie, et de venir, entre guillemets, se servir à la fin du concert, même pendant le concert, pouvoir télécharger directement l'album des artistes. D'avoir le choix entre je télécharge l'album et je donne quelque chose à l'artiste, ou j'achète carrément un CD, ou voilà. C'est cette chose-là. Après, effectivement, un artiste en concert, qu'il soit en Creative Commons, qu'il soit à SSL, qu'il soit dans un stade de France ou qu'il soit ailleurs, c'est souvent un gars qui va faire de la musique. Et que ce qui va jamais changer dans un concert, c'est que tu vas voir de toute façon un gars qui va faire de la musique. Voilà. Ce qui est intéressant aussi avec les Creative Commons, c'est que ça permet, si tu veux, des rapports peut-être plus de confiance entre les artistes, où ils se disent, bah voilà, là j'ai un truc qui me dit que là je peux reprendre ce truc là, j'aurais pas de soucis avec la SSM, j'aurais pas de soucis de machin, j'aurais pas de soucis de droit. Là je peux reprendre les choses, mais je sais très bien que je pourrais pas l'utiliser dans un cadre commercial, donc du coup bah, ça me sécurise plus de ce côté là. Donc du coup les créations participatives, les créations collectives peuvent, à mon sens, peuvent être plus mieux encadrées et se faire de manière plus transparente, quoi, pour tout le monde. Voilà.
Alors dans le même ordre d'idée, on sait tous ici que les Creative Commons sont la seule solution à la crise du disque, ma foi. Est-ce que les concerts dans une optique libre comme ça, ça peut être une ouverture quant à la politique culturelle qui est de fermer plein de salles et que finalement c'est de moins en moins possible de faire des concerts? Est-ce que ça peut permettre
Ça peut permettre déjà de montrer que déjà ça existe auprès de public culturel. Quand je dis public culturel, c'est des personnes qui vont gérer des salles et des personnes qui vont à qui on a pu parler, notamment des politiques. Si je te parle de la culture, c'est pas pour rien, parce que je lui en ai parlé et que a trouvé l'idée vraiment intéressante. Voilà, c'est des gens-là qui peuvent s'avérer être très attentifs aux choses s'ils savent ce que c'est. Et s'ils connaissent un petit peu la philosophie des choses, tu leur présentes pas la chose en disant voilà, c'est un nouveau concert. Tu leur présenter un concert et pourquoi faire, quoi. Tu leur présenter un peu la philosophie de ces choses-là, et très souvent on arrive à avoir au moins une oreille qui écoute, et quand c'est les deux, c'est le mieux. Ça permet après d'avoir des bons retours, et c'est comme ça que ça se fait, quoi. Le festival, il est là aussi pour dire aux gens, soit aux prochains étudiants qui vont être étudiants dans des filières culturelles, soit à des politiques, soit à des personnes qui auront un petit peu de pouvoir de décision là-dedans, de dire, regardez, ça existe, c'est possible, c'est faisable, et c'est une alternative. Et, l'alternative, elle ne peut pas exister si elle n'est pas connue. Et d'une certaine manière, un festival tel que celui-ci, j'allais dire en dur, c'est un petit peu faire descendre les gens qui sont sur Internet dans leur forum totalement anonyme. De les faire descendre un petit peu de leur nuage et puis les faire arriver dans la réalité, à organiser des concerts, servir des bières dans un bar et puis à faire des entrées. C'est cette idée-là.
Après, je sais pas si j'ai mal posé la question. C'était
bon, peut-être mal répondu aussi.
L'un ou l'autre, les gens décideront. C'est qu'actuellement, bon, on a quand même rassemblement à Lyon particulièrement, les salles de concert qui ferment les unes après les autres. Mmh. Un concert libre, ça fait autant de bruit qu'un concert pas libre.
Ouais.
Est-ce que ça ouvre des possibilités qu'il n'y aurait pas, ou est-ce que...
Qu'il y ait des changements par rapport à la politique de la ville, par rapport à ça? Sincèrement, je sais pas, parce que de toute façon, on fait de toute façon des concerts, et que pour le service de l'écologie urbaine qui s'occupe de la fermeture des salles de spectacle, on est de toute façon aussi considéré comme étant des activités nuisibles. Fin de citation, parce que c'est comme ça qu'ils considèrent les activités culturelles nocturnes. Moi j'ai fait quelques petites actions avec le collectif des musiciens lyonnais en juillet. Effectivement c'est des gens et aussi avec le collectif Rupture 2013 où on s'est amusé devant l'opéra à faire des petits concerts improvisés, à essayer de jouer plus fort que les jazzmen qui jouent à plus de 100 décibels sous le péristyle de l'opéra. On n'est pas arrivé, mais bon, les gars ils sont venus nous voir et on a bien discuté et puis la plupart du temps ils étaient bien d'accord avec nous, donc on se rend bien compte que effectivement ta problématique là elle est super importante, puisque cette problématique là elle sous-tend le fait que un artiste pas connu, le seul moyen qu'il a de se faire connaître c'est les petites salles, une petite salle de concert, se faire des petits concerts et puis après de se faire un réseau comme ça. Effectivement nous ce qu'on a dans le festival, déjà nous c'est déjà des petites salles et j'allais dire il remonte, il y en a un acteur supplémentaire qui va faire remonter les problèmes de la ville de Lyon par rapport à ça. Voilà, on est un acteur en plus. Je ne sais pas si les Creative Commons peuvent avoir un poids supplémentaire par rapport à cette problématique là. Mais en tout cas, moi je suis quelqu'un qui va en tout cas faire remonter ces questions-là et qui les fait remonter à toutes les personnes que je connais pour essayer de faire en sorte que ça s'arrange de ce côté-là. C'est effectivement un enjeu énorme.
Il y a peut-être, dis-moi ce que t'en penses, mais il y a peut-être éventuellement la possibilité via le partage online, la possibilité de se créer des collectifs, de se créer une force avant d'avoir aller faire du bruit dans les salles de concert éventuellement.
C'est-à-dire le partage online, c'est-à-dire
C'est-à-dire qu'il y a déjà sur internet des labels qui commencent à être un peu gros en libre, mm-hmm. Des trucs qui se sont connus, qui se rencontrent pour la première fois, voilà, ils font des concerts ensemble après s'être parlé à distance pendant des années quoi.
Ouais. Bon, est-ce que c'est véritablement une... J'ai l'impression que c'est plutôt un épiphénomène, ce genre de choses-là. Internet permet beaucoup de choses, mais que, d'une certaine manière, ce qui remplacera jamais, ça remplacera jamais le fait que, effectivement, les gens doivent se voir pour faire de la musique, que les ambiances de concert, tu les trouveras, et ça, à mon avis, ça sera jamais remplacé par trois personnes qui discutent en webcam à l'autre bout du monde. Des projets tels que Triade par exemple, qui est un projet typiquement dans ce sens-là, hein, qui est un projet collaboratif en licence art libre et tout ça, qui est disponible sur tous les sites de musique libre, que ce soit Jamendo ou Dogmusic ou Voxon. Voilà, c'est un projet, il y a un Belge, il y a un Californien, il doit y avoir même un Japonais, enfin, c'est un projet du monde, mais il n'y en a pas beaucoup comme ça. Je pense que ça remplacera jamais les expériences en live devant un public, ça remplacera jamais, j'allais dire, la réactivité d'un public. Et le dialogue que tu peux avoir entre un artiste, le public, et le fait que l'état d'esprit qui peut se jouer entre les deux, bah, il peut être parfois un peu plus participatif qu'ailleurs, ou pas. C'est à chaque fois, c'est à l'artiste de décider. Est-ce que j'ai bien répondu cette fois-ci ?
Oui. Alors, donc là, on est à quelques jours du festival.
Ouais.
Voilà, ça se profile bien.
Oh ouais, j'espère.
Alors, je suis sûr que déjà, ça n'a même pas commencé, vous savez même pas quel problème vous allez avoir, et vous avez déjà plein d'idées pour la suite.
Exactement. Alors, déjà, on a déjà plein d'idées qu'on n'a pas pu mettre en place pour la première édition. Donc, je pense déjà que la deuxième édition, on va tenter déjà de finaliser les idées de la première. On avait quelques idées, notamment de faire des contours du libre, c'est-à-dire, en gros, de dire... Ah ben, plein de petits lieux associatifs de Lyon, on essaye de faire des petites soirées chacun chez vous, avec on vous donne un DVD, avec de la musique, avec des films, avec ce que vous voulez derrière, et puis à vous de vous emparer de ça et puis de faire un petit peu ce que vous voulez avec. Voilà, c'est un projet qui avait l'air super intéressant. J'aurais pu m'en occuper mais j'en ai vraiment pas eu le temps. Et le problème, c'est que c'est assez lourd à gérer si effectivement on ne connaît pas tout le monde. Et que, voilà. Je pense que c'est un projet qui va continuer la saison prochaine. On a une idée aussi, c'est de faire aussi un artichaut primeur au printemps. C'est-à-dire en gros faire un petit concert ou deux jours, un mini festival de deux jours ou un truc d'un jour, d'un soir, un petit concert comme ça. Ou en espérant que ce soit la saison à ce moment-là, on puisse distribuer comme ce qu'on voulait faire sur la première édition d'Artichaut, on puisse distribuer des cagettes d'artichaut aux gens et puis on puisse se promener dans la rue avec des artichauts à la main en criant Artichaut. Voilà, donc c'était le premier délire qu'on avait. Ces petits délires qu'on avait comme ça, faut voir après ce que ça peut devenir, ce que ça peut encore donner. On avait aussi. J'avais un projet, mais là c'était plus artistique et c'était plus personnel parce que j'allais dire, on est tous un petit peu artistes dans l'âme, et puis moi je le suis encore un petit peu. Même si je suis aussi président d'un festival, ce qui prend beaucoup de temps. L'idée c'était que je me mette derrière un groupe qui faisait de la musique, que je fasse un mur de peinture. Voilà, que je peigne en même temps que le groupe. Et que je peigne en fait sur des petits cubes en carton. Et que en fait à chaque fois les gens en fait je leur donnais après à vendre ou prix libre un bout de carton en fait que j'avais mis, un petit cube en fait à chaque fois. Donc du coup, si tu calcules bien le nombre de cartons et le nombre de faces que tu peux avoir, ça fait 6 faces, donc 6 concerts. Ça peut être énorme sur un festival, voilà. Donc du coup c'était un truc super lourd à gérer, que j'aurais pu gérer en même temps que les conférences. Quoi.
Et puis, on va finir par une question intelligente.
Waouh.
Ouais. Pour un festival comme ça, 11h, c'est pas trop tôt pour commencer.
11h, c'est pas trop tôt pour commencer. Ah ouais, enfin, tu parles des stands d'information. Bon, nous, on parie un truc, c'est tout bête. Hein. Les étudiants, au début de l'année, ils sont sérieux. Donc du coup, ils vont en cours. Donc du coup, ils se lèvent le matin. Les gens qui peuvent voir les stands d'information à 11h à la fac.
Donc vous serez à quelle fac là?
Alors on sera sur la fac Lyon 2 pour les stands d'information. Lyon 2 à Bron au niveau de la maison des étudiants. Et on aura aussi deux stands d'information quand les conférences seront en place sur les quais. Donc le mardi et le mercredi. Voilà à peu près, ce qui nous donne une journée mercredi très très chargée au niveau de logistique du festival Artichaut. Puisqu'on va avoir et des projections à Lyon 2 amphi culturel à Bron et des conférences au Grand Amphi sur les quais, pratiquement en même temps. L'idée étant de profiter un petit peu de l'amphi culturel et l'idée étant d'essayer de ne pas faire tout en même temps, sauf que les conférences sont quand même à 15h et que l'amphi culturel c'est à 13h, mais ça permettra aux gens par exemple de faire l'amphi culturel et après de partir directement aux conférences et puis ça permettra de faire une journée super intéressante. Quoi. Voilà.
Et ben, quelque chose à rajouter?
Bon, Artichaut.
Bah ça sera le mot de la fin, hein. Et voilà.
Merci.